Des oreilles avec des trous dedans.
Des fusiques molles pour fouler tout. Vous écoutez Radio Libertaire et Radio Bazar Naum. Et vous pouvez nous écouter aussi sur Internet.
Oui, desoreilles.free.fr où toutes nos émissions, les 325 émissions, sont archivées.
Voilà, et alors, surprise en fait, comme prévu, on l'a vaguement dit la semaine dernière, mais Manu est revenu. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le tour de la question et on n'aura probablement d'ailleurs pas le temps en deux heures, mais on aura peut-être une vision un petit peu plus précise et des choses en approfondissant un peu le sujet du live looping aujourd'hui et tout ça pour parler du festival qui aura lieu du 19 au 21 juillet au Voûte à Paris dans le 13e près des Frigos. Festival de live looping qui porte un nom ou...
Oui, le Paris Loop Jubilee.
Ah oui. Pour fêter les 50 ans
du jubilé du live looping.
Voilà.
Est-ce que tu veux nous faire écouter quelque chose pour commencer l'émission directement avec du son?
Allez, et ben moi je propose d'écouter Amy X Neuberg, donc vocaliste américaine, qui nous fera l'honneur d'être là en juillet.
Super.
Banging on the piano like an angry baby. You left the keys all black and blue. You left my fragile little feelings feeling black and blue and black and blue and black and blue and black and blue and black. Banging on the piano like an angry baby. You left the keys all black and blue. You left my fragile little feelings feeling black and blue and black and blue and black and blue and black and blue and black. Banging on the piano like an angry baby. You left the keys all black and blue. You left my fragile little feelings black and blue and black and blue and black and blue and black and blue and black. On the piano like an angry baby. You left the keys all black and blue. You left my friends of this loud, 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 loud. Singing on the cigarette, I caught you, baby. You're blaming throw ashes on your furniture. You left my shabby little second bed. Blue and black and blue and black and blue and black and blue. Singing on the cigarette, I caught you, baby. You're blaming throw ashes on your furniture. You left my shabby little second bed. Blue and black and blue and black and blue. On the cigarette, I got you, baby, you're strange. I should love you from the tree. You left my shabby little second bed. Blue and black and blue and black and blue and black and blue. Hanging on the cigarette, I got you, baby, you're strange. I should love you from the tree. You left my shabby little second bed. Blue and black and blue and black and blue and black and blue.
This loud, you spoke this loud. Your shirts, this loud. The towns, this loud. The trains, this loud. My mistake was this loud. This loud.
Banging on the cigarette, I got you, baby. You think it throws the ashes on your furniture. You left my shabby little second bed.
Super.
Ouais. Mais je me souviens avoir vu ça parce que tu m'avais envoyé quelques liens et effectivement c'est super. Alors donc elle est évidemment c'est une performance live comme toujours mais
ouais.
Elle est qu'est-ce qu'elle utilise comme
alors elle comme... elle a un pad de percussion.
Ouais.
Électronique qui lui sert à déclencher un trigger qui sert à déclencher des sons en fait.
Ouais. Donc,
tous les sons derrière de plus ou moins percussifs sont faits à la baguette si je puis dire.
Ouais.
Et puis non plus sa voix et le tout balancé dans je pense Mobius, donc, le logiciel de live looping.
Ouais.
Alors j'ai une question sur. Donc sur concrètement, comment ça se passe au niveau de la performance? Est-ce que, parce que là, enfin, ce qui est bien en plus dans ce morceau, c'est qu'il y a un côté, c'est très clair dans la construction, c'est assez simple. Et alors, est-ce que ça veut dire que donc quand il y a ces boucles, est-ce que ça veut dire que à chaque fois, la première fois qu'on entend un motif, il est joué ou chanté là, comme c'était le cas directement, enfin, et ensuite les répétitions sont de la reproduction sonore, c'est ça le principe, hein, ouais, à chaque fois, c'est toujours comme ça. Et donc en live, parce que il y a toujours ce côté on voit la personne faire quelque chose avec sa bouche ou son instrument et ensuite manipuler du matériel. Il y a toujours cette alternance en fait.
Alors oui et non, parce que par exemple, en fait, typiquement, les loopers, c'est les pédaliers. En fait,
ouais.
Depuis, voilà, le cas des loopers industriels, si je puis dire, ils sont sous forme de pédalier. Donc, tu as un pédalier et ce que tu fais, tu le fais avec le pied, essentiellement parce que le truc était développé beaucoup pour les guitaristes. Donc,
ils avaient besoin de leurs mains.
À un effet supplémentaire, un pédalier supplémentaire pour mettre sur ton pedalboard, quoi, avec les autres à côté, quoi. Et donc, et puis le fait d'avoir besoin d'avoir les mains libres, puisque comme tu es instrumentiste, t'as les mains occupées, donc il te reste tes pieds pour déclencher les commandes et diverses manipulations dont t'as besoin, quoi. Donc effectivement les choses se font essentiellement avec le pied, en fait. Je pense qu'Amy, par exemple, en fait, comme elle a une forme de conduite, puisque c'est les morceaux qui sont composés d'avance, elle a le morceau est écrit, si on veut, en termes de commandes, et après dans le déclenchement même des actions d'enregistrement, par exemple, ou des modulations, etc. C'est inscrit dans sa conduite, donc elle va le déclencher au trigger, en fait, c'est-à-dire en jouant avec ses percussions, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a des coups, ça va être des sons, et puis il y a des coups, ça va être des commandes. Il y a des choses qui peuvent aller plus loin. Il y a Sylvain Poitras, qui est un tromboniste canadien et qui sera là également au Paris Loop Jubilee, qui développe et qui présentera d'ailleurs son soft qui s'appelle le métatrombone. Et lui, le métatrombone, c'est une sorte de looper qu'il a développé pour le trombone, et où en fait sur le trombone il y a un iPhone qui selon la position dans l'espace, etc., va déclencher certains types de commandes qui vont avoir une action sur les boucles elles-mêmes, quoi.
Ouais.
Donc s'il va vers le bas, la boue va, je sais pas, il va faire un stretch, enfin, etc., bon, tout ça. Et voir éventuellement, là il développe un truc où en fait que le logiciel lui-même puisse proposer, en fait, à partir quand des enregistrements sont déclenchés, qu'il y ait une forme d'analyse de la part du logiciel qui puisse proposer des options par rapport à pour relancer les choses, ou etc., etc., et que le logiciel lui-même commence à avoir des propositions musicales développées sur des formes de jeux de langage, par exemple, ou des jeux linguistiques en quelque sorte, etc. Puis en fait c'est des process, donc les process ils sont à la fois mentaux et il faut qu'ils soient inscrits physiquement dans un pédalier, dans un logiciel, etc. Mais ça reste que des processus mentaux qu'on peut utiliser en temps réel, quoi. En gros, c'est essentiellement ça. Voilà, mais en l'occurrence, il y a quand même essentiellement des pédaliers, quoi. Et puis après, ça tombe bien d'en parler, il y a une nouvelle composante, si on veut, la discipline, qui est composée par les beatboxers. Et les beatboxers, ça fait... Donc il y a quelques grands noms, donc Purdyman à l'anglais, et puis il y en a quelques-uns. Eux, ils ont les mains libres, en fait. Et donc, comme ils ont les mains libres et puis qu'ils sont plus dans une démarche de DJ, du coup, ils ont commencé à utiliser des pédaliers avec les mains, en fait. Mais les pédaliers, ils sont faits pour les chaussures, ils ne sont pas faits pour les mains, quoi. Donc du coup, maintenant, on voit apparaître des loopers, en fait, spécialement dédiés pour eux, avec une interface plus ou moins tactile, en tout cas qui soit moins traumatisante pour le poignet que de taper sur un truc en métal hyper solide, etc. Là. Donc, mais eux ont les mains libres. Donc, voilà, quoi. Et après, donc il y a un Roland qui va sortir un modèle, le 505, pour les beatboxers. Mais alors, il y a tous les autres qui font « Mais on peut brancher un pédalier, est-ce que ça a l'air pas mal ?» Enfin, etc. Donc, bon, voilà, quoi. Et j'imagine d'ailleurs qu'on peut brancher un pédalier sur le 505 pour l'utiliser avec le pied, quoi. Mais voilà, et puis après les interfaces se multiplient parce qu'on est aussi à un moment depuis 10 ans avec l'informatique, disons, là, où il y a de plus en plus d'interfaces disponibles. Donc le genre Launchpad ou des matrices qui commencent à aussi arriver dans le truc, donc qui permettent encore de faire autre chose, mais là où effectivement tu as besoin de tes mains. Donc il y a de plus en plus de effectivement un. Et ça gère vraiment, chacun doit gérer ses interfaces, son espace physique, la manière dont il, cognitivement, il peut appréhender l'ensemble des commandes et des choses possibles pour pas faire n'importe quoi, enfin, etc., etc. Les moments où il peut se libérer les mains pour faire quelque chose, et puis osciller entre, ben, tu rentres du son, puis après tu peux le mixer, puis revenir, rajouter de l'acoustique, enfin, etc., etc. Il y a toutes sortes de, tout est possible, quoi, si voilà. Mais ça s'est quand même beaucoup compliqué depuis... En fait, depuis que les choses sont passées dans le numérique, quoi. Les sorties du pédalier hardware. Voilà,
ouais, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des concerts, pas forcément sur, c'est pas forcément du live looping, mais en tout cas avec les guitaristes, c'est le cas souvent. Et puis voir des concerts où les sons produits sont très très ténus, très doux, avec des vrais travails de texture. Et puis en fait, quand tu écoutes le concert, t'entends clac 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 toutes les deux secondes. Et ça, carrément, ça casse les jambes, quoi.
Ouais, c'est clair.
Et parce que ça joue avec les pédales en permanence. Ah, oui, et que du coup, voilà, si t'es pas à 30 mètres de la scène et qu'il n'y a pas une super sono, bah,
ouais, c'est assez bruyant. C'est clair, c'est assez bruyant, ouais, bien sûr. Ouais. Bah, je sais pas, moi, je vous propose d'écouter donc un beatboxer.
Ah oui.
Qui, et c'est, alors ça, c'est vraiment drôle, qui sera là donc, au Paris Loop Jubilee. Donc Thioneb. Beatboxer français, voilà, utilisation caractéristique du live looping et de la beatbox, quoi.
On cherche le morceau dans la playlist là. Ah oui, oui, pardon, ok, c'est parti.
Donc ça, c'est format très court comme ça, c'est construit un peu comme on a écouté le morceau de l'américaine. C'est construit à l'avance et il sait exactement...
À peu près, je pense qu'il sait à peu près où il va. Ouais. Ouais. Enfin, je lui demanderai si tu veux. Bah, ça, après, c'est toujours compliqué, la part d'improvisation, la part d'écriture. Voilà quoi, ça.
Ouais.
Un vaste débat.
Alors justement, moi ça tombe bien parce que c'est de ça justement que je voulais parler, notamment dans cette émission. Et peut-être c'est l'occasion de passer un morceau. Je voudrais passer un morceau.
Ouais, ouais.
Bah juste pour introduire le sujet sur l'improvisation, parce que moi, il y a un musicien, enfin deux là en l'occurrence, que j'aime beaucoup et que j'ai vu en concert. Et
tu les as vus jouer ce répertoire en concert?
Ouais, ouais, ouais. Donc ça s'appelle Ambitronix, c'est Benoît Delbecq et Steve Argelès. Et je voudrais donc passer un morceau pour introduire le sujet de l'improvisation, parce que leurs disques en fait sont enregistrés en concert, mais je pense qu'après c'est pas mal monté, et je trouve que ça donne pas du tout la même impression qu'en concert. C'est-à-dire qu'en concert c'est vraiment extraordinaire, pas seulement par le résultat musical, enfin qui est, enfin que j'aime beaucoup, mais aussi par le processus qui se déroule devant tes yeux et sous tes oreilles, qui est à la fois un processus effectivement visuel, parce qu'on les voit s'affairer avec des machines et leurs instruments, et puis qui est un processus de mise en place, où tu as la matière musicale qui est d'abord un peu informe, et ils sont là à bidouiller les trucs, et tu sais pas trop où ça va, et limite, tu sais pas trop s'ils savent où ils vont, et puis tout d'un coup, les choses se mettent en place, il y a des trucs qui se mettent à se synchroniser ou à se désynchroniser. Enfin bon, bref, il y a une forme musicale qui se met en place, et c'est, le processus est vraiment fascinant. Et comme on disait dans la première émission, qu'il y avait beaucoup de vidéos sur YouTube, parce que justement, l'aspect visuel, en fait, de voir la chose se faire, ça fait partie de l'intérêt. Et dans l'improvisation, c'est aussi le même genre de... L'improvisation, même si ce n'est pas à base de live looping, c'est aussi ça, c'est aussi un processus.
Et des fois, vous êtes là, quoi.
C'est autant le déroulement et comment ça se passe, c'est autant le chemin que le résultat, en fait, qui est intéressant. Et donc, du coup, la question que j'allais poser, enfin, que je te pose après, une fois qu'on aura écouté ça, c'est qu'est-ce qu'il y a en termes d'improvisation ? Est-ce qu'il y a beaucoup de musiciens qui font ça, et comment, voilà. Donc, on écoute ce morceau qui s'appelle « Troyes », parce que ça, comme la ville de Troyes, parce que ça a été enregistré en concert à Troyes, donc par Steve Argelès et Benoît Delbecq.
Thank you.
Voilà, c'était trois par Benoît Delbecq au piano, Steve Argelès à la batterie, et puis tous les deux avec différents appareils de traitement et de looping.
Ouais, c'est super impressionnant, et puis on se demande vraiment comment ils arrivent à boucler leur truc, à traiter tout ça. Enfin, c'est très obscur quand même. Enfin, pour moi, à l'écoute, c'est super bien. Hein.
Et en concert, c'est là, en fait, les morceaux, on dirait que c'est coupé au moment où ça commence à vraiment prendre forme. Mais encore une fois, en concert, les morceaux sont vachement longs et ils arrivent à ça par tout un processus, en fait. Et c'est vraiment...
En même temps, c'est marrant parce qu'on n'est pas très loin du Riley, du premier Riley.
Ouais,
parce
ouais,
que
ouais.
C'est la même matière, jazz, un traitement assez abrupt, c'est rigolo quoi.
La
boucle est bouclée, si je puis dire.
c'est vrai. Ouais. Et du coup, donc la question de l'improvisation avec ces techniques de live looping, comment ça se développe? Parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui s'intéressent à ça.
Ben, l'improvisation, elle est là à la base, quoi. En tout cas, elle est là. Toute la période ambiante est quand même essentiellement improvisée, quoi. Donc, après. En fait, j'aurais du mal à faire une typologie. C'est vrai qu'il y a. Il y a de plus en plus de projets écrits, quoi. Ça, c'est clair. De ce que j'ai vu, il y a quand même aussi finalement pas mal de gens qui improvisent, quoi, d'instrumentistes. Mais là je pourrais même pas te dire, tiens, lui il improvise ou lui il fait pas, parce qu'après il y a un peu toutes les variations possibles entre une écriture complète où tu suis ta construction à l'accroche, quoi, et puis après mais comme dans l'improvisation en général, quoi, des écritures relatives, disons, qui sont plus des chemins dont tu sais que tu vas les suivre, tout en laissant une certaine latitude à ce que tu vas produire sur le champ, mais où t'es pas complètement dans le jeté à corps perdu dans quelque chose que tu maîtrises pas, quoi. Et puis après ça pose toujours les problèmes de technique, quoi. Les loopers, selon ce que tu utilises, selon ce que t'en fais, etc., t'autorise pas forcément à trop t'échapper, ou alors ils vont t'emmener trop loin, parce que tu peux aussi te perdre dans la technique, et donc complètement improviser, au sens où t'es juste perdu dans des fonctions qui t'emmènent vers des chemins. Et là, je pense à un copain qui a un problème, lui, par exemple, pour composer pour la danse. Avec des loopers, parce que des fois t'as du mal à maîtriser ta bête, quoi, le truc. Il y a quand même une part d'aléatoire, il y a beaucoup de possibilités qui peuvent être laissées à la génération aléatoire de motifs, etc. et c'est juste des choses que tu maîtrises pas, quoi. Donc si t'es dans un travail où t'as quand même besoin de coller, ou en tout cas de suivre une direction, c'est pas possible.
Le timing, ça doit être difficile à gérer aussi, vraiment, si tu veux vraiment faire avec des danseurs et qui doivent vraiment être. Enfin, remarque, c'est pas obligé d'être respecté le temps, parce que les danseurs improvisent aussi.
Non, c'est plus sur des intentions, quoi.
Ouais.
Tu dérapes ou t'essayes un machin, sais pas ce qui va sortir. À partir du moment où tu utilises le looper comme une. La base, même d'ailleurs, tu peux le faire avec un looper de base, si je puis dire, avec un RC20 vraiment de base, avec le principe de la boucle à blanc. Moi, j'ai fait ça des années, parce que j'avais pas de looper je savais même pas qu'on pouvait générer des textures plus ou moins aléatoires, ou avec des transformations complexes où tu prends ta loupe, tu vas la diviser par 8 ou par 16 ou par 32, les trucs sont joués dans un certain ordre, en pitchant, j'en sais rien, une slide sur 4, enfin bon, il y a tout un tas de possibilités, quoi. Mais le simple principe de la boucle à blanc, où tu enregistres une boucle à blanc, sans tempo particulier. Tu fais du son et tu vas juste réquer, clac, 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 et donc mettre des petits grains de son dans ta boucle à blanc, et donc d'un coup générer des rythmiques dont tu sais pas du tout quelle tronche elles auront, parce que t'es vraiment dans l'aléatoire, quoi. Et moi, c'est une de mes techniques de base, quoi. J'ai généré de l'aléatoire, je fais ma boucle à blanc, je balance un son, je vais taper dedans de manière aléatoire.
Tu veux dire par boucle à blanc un certain laps de temps dans lequel il se passe rien, mais qui est déjà en boucle.
Voilà,
d'accord.
Ta boucle existe, le temps de ta boucle existe.
D'accord.
Et après, toi, tu fais un son, n'importe quoi, une note de guitare. Et après, tu fais rec, donc rec, stop rec, rec, stop rec, rec, stop rec. Et lui, il va juste prendre le grain, enfin, ce que tu ouvres, le moment où tu ouvres. Et après, tu te retrouves avec des trucs, des rythmiques complètement aléatoires, mais ça fonctionne super. Enfin, des fois, ça fonctionne pas, des fois, c'est magnifique. Bref, c'est la part d'aléatoire, quoi.
Alors, il y a une chose que j'ai vue aussi à un certain nombre de reprises. Notamment dans le looper, je crois que c'est, je sais plus si c'est Boss ou Roland, les RC50, tout ça.
C'est
là.
Les mêmes, ils sont rachetés.
Ah bon, c'est les mêmes.
Roland a dû racheter. Bon. Boss, bref,
C'est le principe de d'essayer en fait de faire une première boucle et d'être capable de revenir. Mais ça, j'imagine que maintenant c'est parfaitement maîtrisé et tout. Ouais, voilà, de pouvoir dire ok, celle-là elle marche pas, donc je reviens en arrière, je l'efface, je la refais, ou je reviens de une boucle ou deux en arrière.
Ouais, tout à fait. L'écoplex par exemple, t'as genre tu peux faire 20 undo, quoi.
C'est-à-dire que
l'écoplex, par exemple, il est mono, dans le sens où il n'y a qu'une piste, mais tu as une profondeur de undo telle que tu peux développer quelque chose et revenir, quoi. En arrière, voilà, quoi. Ce qui est impossible avec typiquement un RC20 ou un RC50 où tu as un undo. Alors, l'RC20, t'as qu'un looper avec. Est-ce qu'il y a un undo? Je suis même pas sûr qu'il y a un. S'il doit y avoir un undo sur le RC20. Mais bref, quoi qu'il en soit, t'es toujours dans des processus de croissance, d'inflation, où tu
d'accumulation,
rajoutes.
Quoi,
d'accumulation,
ouais,
etc.
Ouais.
Donc, après, le jeu, c'est à partir du moment où. Ça, c'est les histoires de technologie, d'ingénierie, quoi. Si tu fais le choix de pouvoir faire tout de pouvoir revenir en arrière tout un certain nombre de fois, c'est un certain type de truc, quoi. Après, tu peux faire le choix d'avoir plusieurs loopers. C'est-à-dire que tu peux gérer ton inflation, en fait, en mixant plusieurs pistes, quoi. Ce qui est à peu près maintenant la tendance dominante, quoi. Donc, il y a de plus en plus, en fait, tu as plusieurs loopers que tu peux mixer. Et donc éviter l'effet inflationniste. Voilà, tiens, je rajoute un truc, un deuxième truc, un troisième truc, un quatrième truc, et je peux pas gérer en fait les sons, chaque son à part, quoi.
Une des grosses difficultés techniques, et puis en tout cas moi en tant que spectateur, et puis aussi en tant que musicien, mais l'idée d'avoir à produire du premier jet le geste musical qui va produire l'effet voulu, sachant qu'en plus, souvent, pas tout le temps, parce qu'on avait écouté des choses où justement c'était pas le cas, mais souvent on est dans un cadre quand même avec une pulsation régulière, avec quelque chose qui doit en même temps être souple, enfin en même temps être juste rythmiquement, mais en même temps souple, pour pas que ce soit trop raide non plus. Enfin, il y a tout un tas de choses, ça peut se jouer sur n'importe quel instrument, mais en tout cas dans le geste musical, il y a un truc comme ça où on sent que il y a une grosse pression, en fait, la machine met une grosse pression sur l'homme en disant, bon, c'est très bien ton truc, mais il faut quand même que tu réussisses du premier coup, et ton truc, il faut qu'il soit bien, quoi, du premier coup.
Ouais, faut pas rater ça.
C'est pas comme, c'est pas comme quand tu joues avec
temps,
des gens.
T'es seul, donc c'est pas très grave si t'es un peu arythmique, tu te connais, tu t'arrives toujours à te récupérer.
Ouais.
Si tu t'es vraiment pas planté, mais c'est clair que si tu rates ta première boucle, t'es mort, quoi.
Voilà. Et puis quand tu vois le mec, quand
et quand t'as pas
de
ndou, si c'est la sixième que tu rates, t'es mort aussi, quoi.
Oui, c'est ça.
Tu vois.
Ouais.
Voilà.
Donc il y a un truc dans le geste musical qui doit être. Déjà, je pense qu'il y a la répétition au sens de travail, hein, le fait de travailler ses loopers, l'instrument. Il y a un côté hyper technique qui fait qu'il faut vraiment être super au point, mais en même temps dans le geste musical, même si on en fait peu en fait, puisque justement on les accumule, il faut pas se rater, quoi.
Non, faut pas se rater. Ouais,
et donc ça met quand même une grosse pression, et quand les mecs réussissent avec décontraction, c'est super impressionnant.
Je pense que tous les loopers ont vécu en concert l'horreur de traîner une sale boucle, quoi. Et bon, t'es là, tu vas pas t'arrêter en disant ouais, j'ai raté, donc t'es là avec ta sale boucle. Bon,
et tu te la colles pendant tout le concert.
Enfin, tout le morceau.
Enfin, tout le morceau, ouais.
Bon, t'es deg, c'est la vie, quoi, c'est pas grave.
Ouais.
Ouais, ça arrive. il faut le dire.
Le tromboniste dont tu parlais tout à l'heure, tu n'as pas d'exemple à nous faire écouter par hasard?
Non, malheureusement, ces trucs sont pas... Ah ouais, non, c'est vraiment super ce qu'il fait. Et c'est marrant parce qu'il utilise alors là, pour le coup, des technologies assez élaborées, quoi, récentes, etc. Et en même temps, ça sonne, pour moi, ça sonne comme du Ornette Coleman, première période, quoi. Enfin, première période, 1959-60, quoi. Ouais. Il y a des circularités qui sont vraiment étonnantes, quoi, des retours comme ça. Et moi, j'adore ce mec, je dois dire.
Et il sera là aussi?
Et il sera là aussi.
Ah, super.
Ouais, carrément. Bah, tous ceux que j'aime, ils sont là. Non, hélas, non, mais bon. Un petit morceau ?
Ouais. Ah bah oui.
Du type improvisé, mais avec des boîtes à musique. Donc,
super. Et,
voilà. Donc, par un peu le gourou du mouvement.
De tout le mouvement, tu veux dire ?
Non, en tout cas, du mouvement, disons, international, relié autour du groupe Looper Delight sur Internet. Donc il s'appelle Rick Walker, qui est le producteur par ailleurs du festival le I2K, qui se déroule depuis 13 ans maintenant en Californie, tous les ans, et qui est un festival sur 5 jours avec tout un tas de musiciens qui viennent de partout, et c'est un moment tout à fait passionnant, le I2K. Voilà, il sera là au Paris Loop Jubilee. Voilà, c'est l'international du looping qui se réunit. Et lui, il est percussionniste à la base, batteur percussionniste. Et il fait partie de ces musiciens qui ont déjà un certain âge maintenant, donc qui ont une vie avant le looping en fait. Finalement, la première génération, celle dont je parle, donc a émergé à partir des années 90 en se mettant en réseau, etc. etc. Sont des musiciens qui ont tous eu en fait une vie musicale avant, jusqu'au moment où ils ont pu faire du looping.
Mais ils font donc, que ça ou ils font autre chose aussi?
Non. Alors après, ça dépend. Il y en a qui sont basculés. Après, il y a tout un tas de situations. Il y a ceux qui font ça pour leur plaisir, donc ils peuvent faire que du looping. Il y a des musiciens professionnels qui, s'il faut qu'ils aillent jouer n'importe quoi, ils vont le faire. Enfin, peu importe. Rick, il joue, il fait du looping pas mal, mais il fait aussi tout un tas de choses plus traditionnelles ou plus délirantes. Enfin, bref, il n'est pas du tout limité, quoi. Donc voilà, une pièce pour boîte à musique, looper et
distorsion.
Thank you.
tu disais, c'est, il s'appelle Rick, comment ?
Rick Walker.
Walker.
Mmh. Voilà, dans un genre plus noisy.
Ouais. Et alors, j'imagine qu'il. Est-ce que, par exemple, c'est quelqu'un qui fait des choses très différentes, toujours avec la même, avec le même principe du live looping, parce que tu disais tout à l'heure qu'il était, qu'il faisait d'autres choses en tant qu'instrumentiste, qu'il était batteur, percussionniste. Et là, dans ce qu'on entend, c'est plutôt. Moi, ça me. Je trouve ça intéressant du point de vue des textures et tout ça, mais musicalement, ça me parle relativement moyennement, justement, par l'aspect un peu, comment dire, bidouille. Tu vois, on sent qu'il y a. Voilà, on sent que ça bidouille, ça produit des effets, c'est chouette, mais quelque part, il y a un aspect musical qui est un peu.
C'est moins construit
loin,
que d'autres choses.
Ouais, c'est plus déconstruit, ça, c'est certain. Mm. Enfin, je pense que l'esthétique est plus déconstruite aussi.
Oui, bien sûr.
Ce
genre
de truc.
Ouais.
Après, là, en l'occurrence, je crois qu'il utilise un Line 6 des L4, qui est
Le vert.
Le vert, ouais. Mm.
Excusez-nous les auditeurs, ça fait vraiment.
Tu t'y connais vachement, toi, André, dans ces machines.
Je côtoie beaucoup de guitaristes, donc forcément.
Ah oui, donc tu vois les trucs verts et tout, les trucs bleus, tu connais les noms.
Les machins verts, il est là, un peu.
Le Line 6 c'est vraiment super. Alors pour justement.
Oui, il paraît qu'il est très bien.
Possibilité de déformation, il y a vraiment des choses super intéressantes à faire avec les mains, pour le coup. Ouais, donc voilà. Après, lui. Il a designé en fait le Mini Looper Lative, qui est aussi une pédale hardware, quoi. Mm. Qui est un compromis en fait entre quelque part le Line 6 et les Coplex. Et là, après, comme il est très multi-instrumentiste et vraiment avec toutes sortes d'objets, etc. Donc, de toute façon, la dimension, la production sonore est toujours un peu. Un peu lofi, un peu assez peu instrumental en fait, au sens des instruments traditionnels, quoi. Il fait vraiment feu de tout bois, si j'ai envie de dire. Mais il a une maîtrise en particulier du looper latif qui est évidemment impressionnante puisque c'est le sien, donc voilà quoi. Et puis par ailleurs, il impulse quand même beaucoup d'énergie et de choses dans toute cette histoire. Et il fait partie des moteurs essentiels de tout ce réseau, quoi. C'est clair.
Il a quel âge, tu disais tout à l'heure?
Rick, écoute, je ne sais pas exactement quel âge il a, mais je pense qu'il se dirige vers une soixantaine, soixantaine d'années, ouais.
Il doit côtoyer beaucoup de très jeunes, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de mecs assez jeunes qui se jettent là-dedans, avec un côté très geek, j'imagine.
Non, il y a pas mal de jeunes, c'est clair. Mais ça, c'est vraiment toute cette génération-là, encore une fois, de musiciens qui ont grandi à la fin des années 60 et surtout dans les années 70. Et dans toute cette période-là, quoi. Et puis, et Amis, c'est Fripp, c'est vraiment les deux albums de Eno et de Fripp qui.
Alors, justement, nous, je crois pas qu'on en ait déjà passé dans cette émission. Enfin, non. Fripp, bien sûr, Eno aussi, pas ces albums-là. Est-ce que tu nous as amené quelque chose?
Ça dure.
Ça vaut le coup d'écouter.
24 minutes.
Ouais, non, faudrait
écouter. Je dirais que ça vaut pas vraiment le coup dès le début. Et d'accord. C'est vers la 15e minute que ça commence à s'exciter.
D'accord.
Mais bon, c'est
on peut sauter dans le tas aussi, hein. Un peu difficilement.
De toute façon, c'est de la texture, donc tu peux aller taper dedans un peu n'importe quand. Mais deux albums ont tout de suite attiré l'attention de beaucoup beaucoup de guitaristes, quand même, qui là ont vu, mais à l'époque, sans y avoir accès, mais c'est ça. Et qui faisaient tous du rock des années 60-70, quoi. Pour l'essentiel. Et puis quand les Coplex est sorti, donc vers 83, quelque chose comme ça, 82, 83, ils ont basculé, quoi.
C'est faisable, Dédé, ou...
Ouais, j'essaye tout de suite. Ça marche pas, c'est pas grave. C'est parce que je connais pas bien le logiciel. c'est Live Ableton et alors j'y vais, je me lance. Et alors j'ai tapé effectivement à la 14e minute morceau.
C'est parlant.
De
hein.
Free PNO, voilà, juste pour avoir une idée de ce qui s'est fait entre les tout débuts il y a 50 ans et la tendance, les tendances actuelles
on
que tu nous fais découvrir.
On pourrait fêter les 40 ans de Freepertronics en fait. Tous les 10 ans on découvre la poudre, c'est un peu...
Ouais. Alors,
l'histoire du live loopy.
Brian Eno, il joue de, il joue avec quoi là dans ce cadre
là? Je pense qu'il joue avec pas grand chose. Je sais pas exactement comment ça fait l'enregistrement, mais je sais qu'Eno a surtout apporté les textures et travaillé sur les textures. Que après Fripp doit rentrer faire son Frippertronic, etc. Mais je pense que c'est essentiellement de la guitare en fait là qui est utilisée.
Ah oui. D'accord.
J'ai une question sur, comme je connais rien là, comme ça, a priori, j'imagine une tendance possible. Et est-ce qu'il y a des gens qui utilisent, au lieu d'enregistrer les boucles en live, utilisent uniquement un répertoire de boucles qu'ils ont constitué, un peu à la manière d'un DJ avec ses vinyles, voire avec des sillons fermés, même. Ouais.
Là c'est pareil, il y a des platinistes qui commencent à utiliser. C'est pas encore très marquant, mais il y en a quelques-uns donc des platinistes hein, qui en plus utilisent le live looping, à la limite comme des beatboxers, la même démarche quoi. Donc là je pense que ça va être amené pareil à se développer. J'ai vu un mec super intéressant dont malheureusement le nom m'échappe, mais l'année dernière donc en Californie, qui lui avait juste son iPhone. Et dedans, il avait des sons, quoi. Et après, il avait ses loopers. Et donc, c'était des sons préenregistrés, quoi. Des samples, sa banque de samples. Et c'était assez magnifique ce qu'il faisait avec ses sons et tout. Et alors, c'est vrai que ça pose la question du live looping, en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'il y a quelque part un peu une espèce d'éthique informelle qui voudrait que... tu n'es pas le droit d'utiliser tu n'es pas le droit que ne rentre pas en considération les samples préenregistrés etc. Mais c'est vrai que limite c'est le résultat qui compte, ça a assez peu d'importance, je pense que ça a assez peu d'importance quoi. Je pense qu'il faut vraiment des vrais bons musiciens pour que la chose soit intéressante en fait, parce que sinon c'est du mix quoi, c'est du mix quoi, autant faire du mix. Donc il faut des bons loopers, je pense qu'un bon looper peut faire de la bonne musique avec des sons préenregistrés quoi.
Oui, parce que ça peut être aussi créatif, parce que d'une part les samples peuvent être ses propres samples ou bien des samples de quelqu'un d'autre, mais peu importe finalement, parce qu'après finalement c'est tout ce que tu peux en faire.
Oui, ça va être le process, toujours pareil, en temps réel.
En live, à partir de ça.
Pas de problème. Enfin, disons que...
on a le droit, c'est bon.
Ouais, on a le droit. On va dire qu'on a le droit. Mais je le déconseille quand même.
Ouais, faut faire attention, ça peut... Faut pas le faire devant n'importe qui, quoi.
Non, mais voilà, en fait, tout ça pour dire que finalement, ça n'a plus tellement d'importance, sachant que... ça a plus tellement d'importance, sachant que maintenant tu fais de la musique avec alors des sons acoustiques, mais après tout, la question pourrait se poser aussi pour des sons numériques, quoi. Mais bon, à partir du moment où tu les joues, l'important finalement c'est de les jouer, quoi. Tant que tu appuies sur ton iPhone pour jouer ton son, j'ai envie de dire que quelque part tu es un instrumentiste, quoi. Et puis après, tu as ton instrument, ton looper qui est ton instrument en fait, ton deuxième instrument ou ton méta-instrument plus exactement, quoi. Donc. Si le travail de looping est intéressant, à la limite, peu importe la source, quoi. On va le dire comme ça, quoi.
Ouais.
Et ne serait-ce que simplement le Terry Riley d'origine. Si on doit,
ah oui.
Lui, il a pas joué la musique, il a fait du looping sur des pistes qui étaient déjà enregistrées, quoi, sur du son qui était déjà enregistré, du matériel qui était déjà enregistré. Ouais. Donc, en gros.
Ouais, en fait, toutes les tendances sont déjà en germe dès les départs, dès les débuts.
Absolument.
Le cas, puisque c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais honte à moi, Le cas du groupe qui a un gros succès là, récemment qui s'appelle Battles, c'est considéré comme du live looping ou c'est juste qu'ils utilisent beaucoup de loopers et puis ils jouent un truc
Après, il n'y a pas de commission occulte.
Non, oui,
un looper Delight qui décide que celui-là fait du live looping et celui-là il n'en fait pas. Quoi.
Ouais, bien sûr. Je veux dire, c'est une technique qu'ils utilisent beaucoup. Ou presque tout le temps ou...
En fait, je pense qu'ils l'utilisent pas mal. J'avoue que quand j'écoute, j'ai du mal à déconnecter ce qui est de l'ordre du looping de ce qui est de l'ordre du direct, en fait.
Ouais.
Ceci dit, je pense qu'en fait, l'écoplex a une... Est-ce que c'est les écoplex?
Ah oui, ils jouent avec ça.
Ouais.
Ah ouais.
A quand même une bonne place. Moi, j'avoue qu'à l'oreille, je serais incapable de de l'analyser, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est que, mais ça a pu savoir après avec des affinités esthétiques, c'est vrai que le matrock et le looping de type écoplex, qui reste jamais que des formes de mathématiques, en fait, puisque c'est des diviseurs, tu multiplies, tu divises, etc., etc., donc... et des polyrythmies, etc. Quelque part, il y a quelque chose d'assez naturel à ce que les deux se croisent, quoi. En l'occurrence avec Battles, quoi. Mais moi, je dirais que quelque part, il y a pas de problème en soi et tout.
Oui.
Encore une fois, j'en avais parlé, je crois, la dernière fois, il y a des hybridations qui font que maintenant les loopers vont devenir peut-être de plus en plus discrets dans des organismes musicaux plus complexes que le. Enfin, qui dépasse le looping, quoi. Donc tu les déconnes, tu vas pas forcément les analyser comme des loopings, mais plus comme des effets, au même titre que d'autres types d'effets, etc., etc. Ils rentrent dans la panoplie des effets, quoi. Quelque part, il y a quand même, il faudrait quasiment que le live looping soit reconnaissable à l'oreille pour en être, quoi. Je dirais s'il faut trouver une formule en disant bon, quand t'écoutes quelque chose et tu vois pas. Enfin, c'est pas immédiat, évident, criant, etc. Bon, il y en a, mais est-ce que c'en est? Oui, c'en est. Maintenant, voilà, quoi. Et je pense que Battles, ils sont un peu sur la... Mais je sais que les coplex est quand même utilisé massivement, quoi.
Et il y a un autre truc aussi qui me taraude, c'est est-ce que... Enfin, tu vas me dire, enfin, je connais presque la réponse, mais en fait, le principe du quantizer, c'est-à-dire de la machine qui dit ok, t'as pas joué vraiment en place, mais moi je vais te recaler automatiquement et puis ça va marcher, quoi.
C'est mal.
Alors, est-ce que ça se fait beaucoup? Oui, voilà. Est-ce que ça se fait beaucoup ou pas?
Bah, ça se fait, je sais que ça existe sur les boss, hein, sur le RC50, RC300, il y a de la du quantize, quoi.
Ouais.
En fait, à la limite, quand tu utilises Ableton aussi, t'as un genre de quantification, quoi. Et alors là, il y a deux types d'approches, quoi. Et ça, je pense que ça dépend vraiment des sensibilités des musiciens, quoi. C'est où tu peux jouer au clic, en gros. Et si tu peux jouer au clic, t'as tout intérêt, surtout si tu joues collectivement, à avoir une forme de quantize, quoi. Ou alors, ce qui va déterminer le truc, de toute façon, c'est la première boucle dans la rythmique dans laquelle t'es intérieurement, et c'est elle qui doit déterminer les choses, quoi. Et moi, j'ai eu le problème récemment par rapport à un logiciel, en fait, où... Enfin, l'élaboration d'un logiciel, où effectivement, ça réglait des problèmes techniques, d'ingénierie, de patch, etc., etc., de mettre de la quantification, en fait. C'est finalement plus simple en termes d'élaboration du looper, quoi, quand dans sa conception, te dire on part quantifier, en fait. Mais pour moi, ça marche pas, quoi, parce que le principe même, c'est que c'est toi qui détermine la première boucle, quoi. Et t'as suivi personne à part ton propre tempo, quoi. Et après tu suis ton propre tempo en différé à partir du moment où ta boucle est établie, mais de toute façon et moi personnellement en tant que musicien je peux pas jouer au clic, quoi. J'en suis incapable, donc si c'était au clic, s'il y avait des quantiles sur tous les loopers, ou si les loopers étaient toujours quantifiés, moi personnellement je ferais pas de looping, en fait, parce que c'est vraiment pas ça qui m'intéresse, mais ça fait partie effectivement des possibilités, quoi.
Et puis j'irais même plus loin, que l'intérêt de faire une boucle qui soit rythmique, forcément, puisque c'est une boucle, mais qui soit arythmique d'un point de vue de la pulsation, c'est presque l'intérêt du truc. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de jeu comme ça entre quelque chose qui va être perceptible comme un rythme, mais non mesuré, quoi.
Ouais, presque. Ouais, presque ouais.
Et ça, c'est super intéressant. Et ça me fait penser à un groupe, moi, que j'aimais beaucoup à une époque, qui a arrêté de jouer maintenant, il n'y a pas très longtemps. Mais c'est un groupe, un trio italien qui s'appelait Zoo.
Ouais,
Et qui faisait, en live, hein, sans faire de looping, mais des sortes de rythmiques, ils ne sont pas les seuls, bien sûr, mais des rythmiques complètement... pas du tout asymétrique, j'allais dire asymétrique, mais c'est complètement faux. En fait, vraiment non mesuré. En fait,
bah en fait la pul- ouais, ou souvent, ou même dans les musiques africaines, tu as voilà. une pulsation qui est assez vraiment régulière, mais à l'intérieur, il peut se passer des tas de petits décalages,
des
choses qui ne sont pas quantifiables. Tu écoutes des percussions africaines, s'il y avait un quantitizer qui passait par-dessus, ça ruine tout, parce que tout l'intérêt est que à l'intérieur, tout est irrationnel, en fait.
Oui, ouais, c'est ça. Ouais.
Et donc, c'est vrai que c'est... Ouais.
Voilà, donc la quantification réservée à un certain type de musicien en ce qui me concerne, quoi.
Est-ce que par rapport à tout ce qu'on vient se dire, il y a quelque chose de particulièrement éloquent dans ton sac encore ou pas ?
Parce qu'il faut se quitter, en fait. Je suis au regret de vous annoncer que nous devons nous quitter très rapidement.
Cette fois-ci, on a vraiment plus de thunes pour en faire une troisième. Là.
Battles alors.
Puisqu'on vient d'en parler, c'est vrai que. Et donc, on se dit au revoir maintenant, parce qu'on laissera courir le morceau jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup, Manu, d'être venu.
C'était un plaisir.
D'être monté à Paris deux mardis de suite.
T'habites à mardi de suite.
Deux mardis de suite. Ouais. Donc voilà, je vous rappelle juste le Paris Loop Jubilee, donc sur 3 jours, vendredi soir, samedi toute la journée et dimanche à peu près toute la journée.
19 au 21 juillet.
19 au 21, 17 projets, 21 musiciens, je sais plus, 5 ou 6 nationalités. Et beaucoup de choses excellentes, quoi.
Au pied des frigos.
Voilà, sous la rue de Tolbiac.
Salut. Et à la semaine prochaine ou à la rentrée, je sais pas, on n'a pas décidé encore ce qu'on allait faire cet été.
Voilà.